Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui les concerne. Du temps des apôtres déjà, l'Église de Jésus-Christ était importunée par des dirigeants religieux zélés, égarés, tentant d'imposer aux chrétiens le rite de la circoncision ainsi que l'observation de la loi de Moïse. Lorsque les apôtres et les anciens se réunirent à Jérusalem pour recevoir les instructions divines à ce sujet, il s'y trouva des pharisiens défendant la thèse selon laquelle l'ancienne loi était toujours en vigueur. Cette doctrine s'insinua également parmi les églises de Galatie, et Paul dut leur écrire une épître afin de contrecarrer ce faux enseignement. L'apôtre va même jusqu'à dire à ces chrétiens, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'écrivain de l'épître aux Hébreux se voit également contraint de traiter un des aspects du problème constitué par le rapport existant entre le christianisme et l'ancienne loi. Cela revêtait une forme critique car certains chrétiens se détournaient de Christ pour retourner à l'Ancien Testament. L'Épître aux Galates combat l'idée de la coexistence du christianisme et de la loi. La lettre aux Hébreux traite quant à elle d'une forme plus critique encore de la question, c'est-à-dire de la loi sans christianisme. C'est pourquoi l'épistolier aux Hébreux insiste avec une sorte de virulence sous-jacente sur le fait que Dieu a donné à l'humanité une nouvelle et meilleure alliance. Nouveau Testament. Le Saint-Esprit dit aux Hébreux, au chapitre 8, versets 6 à 7, « Mais maintenant, le Seigneur a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Nous voyons donc qu'il existait une première alliance, puis une seconde, autrement dit, un Ancien Testament, suivi d'un Nouveau Testament. Le mot « alliance », dans sa définition théologique, signifie « promesse divine de bénir ceux qui se conformeront à certaines dispositions législatives, en l'occurrence le décalogue, ou rempliront certaines autres conditions. L'expression « testament » est donc parfaitement adaptée pour désigner l'alliance divine, puisqu'il s'agit d'un document légal réglant la disposition des biens de quelqu'un. Si la première alliance avait été parfaite, il n'aurait pas été question pour l'Éternel de désirer prendre de nouvelles dispositions, d'en faire une nouvelle. Or, Dieu remet en question non seulement l'ancienne alliance, mais également les personnes devant en bénéficier. La loi, elle, était parfaite ou complète, tout au moins pour le but que Dieu s'était assigné, c'est-à-dire d'amener l'humanité à se rendre compte de la réalité du péché et de la tragédie qui en découle. Paul le dit bien. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne combattras point ». Cependant, la première alliance ne tenait pas encore compte de l'élément essentiel, que le pardon absolu des péchés. Hébreux 10 développe ce principe en profondeur. La loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Puis au verset 4, il est encore dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Mais parlons encore de la question de conscience. Ce mot est en fait composé. Lorsqu'on en retire le préfixe, le mot « science » apparaît. Veut bien sûr dire avoir la connaissance, la notion. Accompagné de son préfixe, conscience signifie avoir une perception, une notion intérieure Sinon, l'homme, sous la première alliance, avait connu le pardon absolu. Il n'aurait plus eu de conscience du péché. Mais puisque le sang des animaux ne pouvait procurer ce pardon total, un autre sacrifice pour les iniquités, parfait cette fois, était nécessaire. Jésus-Christ est cette victime expiatoire. Et lui, dit la Bible, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Grâce à cette immolation parfaite, les êtres humains eurent le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'apôtre Pierre nous éclaire sur la corrélation existante entre l'eau et la conscience. Lorsqu'il dit en parlant de Noé et des siens qui épargnent le déluge, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est par le moyen du baptême en Christ qu'on atteint son sang, que la conscience est purifiée des œuvres mortes. Nous avons donc vu que la nouvelle alliance est appelée « nouvelle » en Hébreux chapitre 8, verset 13, il est bien dit. En disant une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Par la voix de Jérémie, Dieu avait promis de faire un nouveau testament. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. L'ancienne, quant à elle, avait été traitée avec Israël en relation étroite avec leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Quand Moïse répéta la loi à Israël, il lui rappela l'alliance que Dieu avait faite avec Israël à Horeb et ajouta, « Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » Moïse continua inlassablement à répéter la loi, en rappelant au peuple les 10 commandements. Ceux-ci constituent en eux-mêmes une alliance. C'est d'ailleurs ainsi que Dieu les nomme en Exode chapitre 34, verset 27. Il ne constituait d'ailleurs pas la totalité de la première alliance, mais en était une partie vitale. L'Éternel imposa d'autres choses au peuple par le canal de Moïse. Ce dernier déclare en effet dans le chapitre 6 de Deutéronome, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus appelle cette charge le premier et le plus grand commandement. Une alliance avait été passée avec Israël à Horeb sur le mont Sinaï. Mais plus tard, comme nous l'avons vu, Dieu annonce une alliance nouvelle. Elle allait être nouvelle en effet, car elle pourvoirait à une rémission totale des péchés, puisque l'Éternel dit « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ceci n'aurait jamais pu être dit à propos de l'ancienne alliance, puisque dit l'épistolier aux Hébreux, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Par ailleurs, le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus, est de loin supérieur à celui de l'ancienne, Moïse. L'Ancien Testament fut promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. Il s'agissait de Moïse. Mais celui de la nouvelle alliance est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En Hébreux chapitre 10 et au verset 1, le Nouveau Testament est appelé route nouvelle et vivante. Grâce à lui, nous pouvons maintenant nous rapprocher davantage de Dieu, sans plus devoir passer par l'intermédiaire du sacrificateur ou prêtre. Le clergé a disparu et la loi s'est spiritualisée, car comme le dit Hébreux chapitre 7 et verset 12, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Il nous est maintenant possible de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est donc par le sang du Christ que nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience. Mais comment l'être coupable de péché peut-il rencontrer un Dieu infini dans sa sainteté? Le sang de cette alliance, le sang du Fils de Dieu, est également le moyen ou la puissance par le truchement duquel nous sommes sanctifiés et nous atteignons l'Esprit de grâce. Il n'est par conséquent pas surprenant qu'une fois établi un mémorial à ces mêmes-là, notre sauveur dise, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Dieu a incontestablement offert un nouveau testament à l'humanité. Et en disant qu'une alliance est nouvelle et la Bible, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Nous venons de nous entretenir des deux parties principales de la Bible. De deux choses l'une, ou bien vous connaissez bien la parole de Dieu, ou encore nos propos vous ont semblé quelque peu hermétiques. Et c'est spécialement à vous que je m'adresse. Il existe un monde de différence entre posséder la Bible et en saisir la beauté, la pureté spirituelle, entre la lire et la méditer, entre la pensée et l'étude proprement dite. Alors voilà ce que je vous propose. Vous m'écrivez quelques mots pour dire que vous désirez vous inscrire à nos cours bibliques. Bon, je reparlerai encore dans quelques instants d'ailleurs. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et nous appliquons ce principe. Tout ce que nous vous offrons est gratuit et ne vous engage à rien. Si vous désirez posséder une Bible, vous pouvez participer à un concours simple et passionnant qui vous permettra d'en gagner une. Ce concours est spécialement destiné à procurer la parole de Dieu à ceux qui ne la possèdent pas. Ensuite, rien ne vous empêchera d'étudier le Nouveau Testament plus en profondeur. Je vous le rappelle, tout est gratuit. Cela ne veut bien sûr pas dire que cela n'a aucune valeur. Bien au contraire, et vous le verrez. Alors, qu'en dites-vous?
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie gratuitement car nous ne voulons rien vendre. Qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Seigneur vous garde.